C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 16 mars, bonne journée, bienvenue au 98.5. Je vais vous résumer la météo de façon très simple. Aujourd'hui, du temps nuageux, le maximum plus 2 degrés. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige. Demain, il y aura peut-être un petit peu de neige au début de la journée, pas d'accumulation, mais il y aura de la pluie probablement là, parce qu'on prévoit une quantité d'environ 10 mm toute la journée, température 3 degrés, et durant la nuit, ce sera autour du point de congélation. Et pour la fin de semaine, et même pour le début de la semaine prochaine, on prévoit alternance de soleil et de nuages, avec des températures autour de 2 degrés, 0 degré, moins 2, et même il y a du 4 et du 5 degrés pour la semaine prochaine. Premier sujet ce matin, évidemment, le drame de Amqui. D'abord, on sait que le premier ministre François Legault se rend sur place avec les chefs d'opposition. D'autre part, pour ce qui est de l'homme accusé, il y a des images qui ont circulé de ses activités sur des réseaux sociaux. J'ai pu voir quelques messages ou quelques vidéos qu'il a mis en ligne. Et là, je ne ferai pas une analyse, là, c'est pas ma job de faire ça, puis j'ai pas les compétences pour faire ça, mais en résumé, c'est le genre de vidéo qui malheureusement circule beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui a des idées délirantes, quelqu'un qui parle de complot, quelqu'un qui prend des faits, puis qui les triture et qui en donne une version complètement folle. T'écoutes ça, tu dis, ça sort d'où, là? Et il se croit, là. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est vraiment quelqu'un de perturbé. On va laisser l'enquête se poursuivre, puis on va laisser les experts l'examiner, puis tout ça, puis voir, on fait affaire à quoi. Mais je rappelle les propos du docteur Marie-Ève Cotton. La grande majorité des gens qui commettent des tueries de masse ont pas de problème de santé mentale. C'est pas des schizophrènes, c'est pas des gens qui ont eu ou qui devraient avoir un diagnostic de maladie mentale. On a affaire avec des gens, la plupart du temps, qui vivent la souffrance, de l'isolement, des gens qui ont été victimes d'intimidation, ajoutées de la consommation de stupéfiants, d'alcool, des gens qui peuvent être vraiment repliés sur eux-mêmes, incapables d'interagir socialement. C'est souvent le type d'individu auquel on est confronté dans ces cas-là. Troisième chose qui est importante de dire ce matin, c'est que les gens d'Amqui, et là je pense aux familles directement, il y a des reportages au Journal de Montréal, La Presse, entre autres, on s'imagine l'impact. Une des victimes, Gérald Charest, c'est sûr, là, il laisse autour de lui des gens tristes, frères, membres de la famille. Il est né dans la région, puis il est mort tragiquement dans la région. Et là, tous les membres de la famille parlent de lui comme d'un rassembleur. C'est ça, le deuil. Et dans un contexte horrible, évidemment. Puis dans la presse, on revient aussi sur l'histoire de Pauline Desmarais, Jean Lafrenière, qui faisait une petite marche lundi sur le boulevard Saint-Benoît à Amqui quand l'horreur s'est produite, c'est-à-dire que le gars foncé avec sa camionnette sur des victimes innocentes. La femme a été grièvement blessée. Elle est dans un hôpital de Québec et son conjoint est un des deux, malheureusement, piétons qui sont décédés. Puis je vais terminer sur Amqui en vous parlant de cet article dans Le Soleil concernant la disponibilité des ressources. Tu sais, parce que docteur Cotton a un maudit bon point, là. Quand il y a un drame, puis que le Québec est saisi, les politiciens récupèrent un peu en disant, là, c'est un gros problème, puis il faut faire quelque chose. Puis je dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, là, mais c'est une réponse rapide à donner dans un contexte où il y a, parce qu'on se sent tous interpellés, disons, un besoin d'avoir une amorce de réponse. Donc, pour avoir des soins psychiatriques à Amqui, vous devez faire minimum une heure de route. Ça, c'est au minimum. Un citoyen doit parcourir 103 kilomètres parce qu'il doit partir d'Amqui, se rendre jusqu'à Rimouski, où se trouve l'offre de services en santé mentale pour l'Est du Bas-Saint-Laurent. Et il est de façon générale très difficile d'obtenir par exemple, un rendez-vous avec des psychologues. La docteure Karine Gauthier, qui est la présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois, dit que ce sont des kilomètres et des kilomètres que les gens doivent parcourir. Et elle donne des exemples. Il y a un poste de psychologue au CLSC d'Amqui qui est vacant depuis un bon moment. Au CLSC de Matane, à une soixantaine de kilomètres, il n'y a pas de psychologue depuis 7 ans. Et la liste est longue comme ça, que le département de psychiatrie de Rimouski couvre tout le territoire de l'Est, ce qui inclut Matapédia, la Matanie et la Métis. Elle constate depuis des années que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale n'ont pas accès à des services spécialisés. Et évidemment, on pense à la psychiatrie, mais on peut penser à des psychologues qui, malheureusement, en tout cas au public, sont pas disponibles. C'est pas qu'il y en a peut-être pas au privé. Mais il y a un constat évidemment terrible, c'est qu'il n'y a pas de ressources sur le territoire pour l'évaluation psychologique de gens qui sont perturbés puis qui auraient besoin d'aide puis qui auraient besoin d'encadrement. Alors, on comprend, pénurie partout, c'est vrai dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, mais la réalité des régions, et s'il y a probablement quelque chose au-delà du drame là et de l'horreur qu'il faut retenir de cette tragédie à Amqui, c'est pour les gens qui vivent à Montréal, à Québec, les deux grands centres, là, cette réalité de région. Et le député Pascal Bérubé fait bien de nous interpeller sur ça, sur l'absence d'Internet haute vitesse ou l'Internet de qualité, efficace, sur ces problèmes, par exemple, d'aménagement de la prison dont on parlait hier, là, sur l'absence de ressources en santé mentale, en psychologie. Et je pense que comme Montréalais, citadin, ça nous donne aussi une lecture de ce qui se passe dans les régions du Québec. Alors, on va en reparler, évidemment, un peu plus tard ce matin. Un mot aussi sur, parce que Bénédicte vous en a parlé, le fils de Vito Rizzuto qui a été victime d'une tentative de meurtre. Tu regardes les éléments du casse-tête, c'est presque un film, là. D'abord, on est en plein jour, il roule sur une autoroute, il conduit un véhicule de type Mercedes, et on lui tire dessus. Alors que l'auto est en mouvement, plusieurs projectiles, et il va finalement s'immobiliser dans le stationnement d'un salon funéraire. Alors, on nous dit qu'il est donc blessé, bien sûr, mais que c'est une tentative de meurtre. Il y a peu de détails, combien de balles l'ont touché. D'ailleurs, quand vous regardez le véhicule, puis le nombre de coups de feu tirés, c'est quand même assez étonnant qu'il soit pas décédé. Et c'est le fils de Vito Rizzuto. Son frère avait été assassiné il y a quelques années. Son grand-père, rappelez-vous de la scène, qui était dans sa cuisine, qui avait été abattu par un tireur qui était à l'extérieur. Et son père qui est décédé d'un cancer. Il est membre du barreau, donc comme avocat. Et il a été acquitté dans une affaire de possession illégale d'armes et possession de drogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On est à l'étape, évidemment, des projections, des analyses. Vous savez, il arrive très souvent que les policiers vont aller voir des figures dominantes du crime organisé en disant, écoutez, votre nom circule, il y a de l'écoute électronique, on doit vous avertir que votre vie est peut-être en danger. Mais ce qui est clair, c'est que ça ne restera pas impuni. Ça demeure le fils de Vito Rizzuto. Il est encore actif. Quel est le portrait des relations entre la mafia traditionnelle, donc la mafia italienne, les motards? Il y a eu beaucoup, je dirais, de concertation dans les dernières années. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est un changement de garde? Les gens qui ont eu le contrat et qui l'ont raté, j'imagine que la chasse est ouverte. Et je dis pas que ça va être une guerre de gang, là, mais c'est pas vrai qu'on tire sur... le fils Rizzuto, puis qu'on passe à un autre appel. Et ça aussi, on va en reparler un peu plus tard ce matin. Parlons maintenant de ce projet de loi qui a été déposé à Québec pour encadrer le travail des policiers concernant les interpellations et ce qu'on appelle aussi le profilage. On sait qu'il y a un jugement qui a été rendu en cour supérieure qui disait qu'il y avait une pratique au sein de la police qui amenait du racisme. Et que c'est pas, puis on va prendre le cliché, là, mais que j'ai malheureusement entendu très souvent, c'est pas parce que t'es un noir au volant d'une voiture, mettons, un peu luxueuse, que c'est une raison pour t'intercepter. Et Il y a donc le profilage et il y a les interceptions au hasard. Puis il faut que la police continue à faire ce type d'intervention. Il faut l'encadrer, je veux bien. Et je pense que la meilleure façon de comprendre, c'est de donner des exemples très précis. Et c'est l'actuel directeur du SPVM, Fadi Daguerre, qui l'avait mentionné. Si vous avez un parc industriel, puis une série de vols dans le parc industriel, et que, par exemple, vous avez une description d'un véhicule à partir d'images de caméras de surveillance, un camion bleu, puis un camion peut-être de type pick-up ou minivan, ben ça se peut que la police qui patrouille intercepte ce type de camion. Puis là, vous allez dire, mais j'ai rien à voir, c'est arbitraire. Il faut avoir des motifs. Si vous avez une description de membre de gang de rue qui circule dans tel type de véhicule, ben oui, ça se peut qu'on intercepte. Il faut pas que ça soit gratuit. Il faut pas que ça soit basé sur un mauvais sentiment, des, appelons ça, un billet. Mais il faut permettre à la police de faire sa job. S'il n'y a pas d'interception aléatoire, on va en échapper. S'il n'y a pas un certain profilage, puis c'est pas juste profilage racial, ça peut être du profilage criminel. On a besoin de ces techniques. Sinon, on paralyse la police. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien ça, là, mais moi, je suis pas de cette école. Et je pense que, oui, il faut éviter les abus, les préjugés, mais il faut maintenir quand même, il faut donner aux policiers des outils. Maintenant, regardons ce qui se passe sur les marchés financiers. On a vu, bien sûr, cette nouvelle hier qui a secoué beaucoup le Crédit Suisse, une institution qui est mal dirigée depuis déjà à peu près 2 ou 3 ans, qui a besoin de 54 milliards de dollars pour se sortir la tête de l'eau. Et là, aux dernières nouvelles, ça a repris à la hausse, là, mais hier, c'était une journée terrible. Et on voit, puis peut-être que vous l'avez remarqué, depuis le début de l'histoire de la faillite de la banque en Silicon Valley, puis d'une autre banque, puis d'une troisième, la plupart des gens vous ont dit, restez calme. Puis là, je parle pas du Canada, là, je parle même aux États-Unis. Le système est plus solide. Puis les mêmes gens qui vous disent de rester calme sont les premiers à s'énerver. Puis on voit toute la spéculation. Et ce matin, ce qui revient beaucoup, c'est de dire, est-ce que d'autres banques pourraient tomber? Là, le Crédit Suisse, ça va mieux, mais hier, il y a eu panique. Il y a d'autres institutions qui seraient peut-être fragiles. Le Fonds monétaire international doit commenter aujourd'hui sur l'état des banques dans le monde. Et l'autre élément, c'est l'espèce d'incertitude. On sait tous que 2022 a été une année de turbulence. Les portefeuilles se sont vidés. Et on sait aussi que 2023 est une année qui sera difficile. Et je lisais ce matin les experts, un des problèmes, autant pour ce qui est du marché boursier que des fonds d'investissement, par exemple, dans des obligations, on n'arrive pas à prévoir ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a vraiment une récession? Est-ce que l'inflation va être un peu plus sous contrôle vers la fin de l'année? Est-ce qu'il y aura des pertes d'emploi? Et devant l'inconnu, ben ça tire de tous les bords, de tous les côtés. Donc, il faut s'attendre à des mouvements assez chaotiques. Et on l'a vu avec l'histoire des banques, puis on va le voir aussi autrement. Maintenant, ce matin, je vais vous parler de ce dossier concernant la drogue du viol. On en a beaucoup parlé dans l'émission avec Bénédicte, avec Fred. Mais il semble en tout cas que des femmes intoxiquées au GHB, il y en a beaucoup. Et il y a l'Assemblée nationale qui a déposé une motion pour reconnaître cette réalité. Puis vous avez plein de témoignages de femmes qui ont consommé, par exemple, dans un bar de la rue Saint-Denis, un bar de la rue Beaubien. Puis la réaction des femmes, elle est normale en disant « j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de prendre un verre » sans craindre comme ça que quelqu'un mette quelque chose dans mon verre. Puis il n'y a pas juste cette utilisation là pour le GHB. On sait que c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup. Alors vous pourrez lire ce matin. Il y a même un médecin, un urgentologue qui parle d'un problème très présent et d'une drogue très fréquente dans les bars. C'est une substance qui, vous le savez, est liquide incolore et passe inaperçue dans une consommation alcoolisée. Et que souvent, on a des réserves à faire des tests de dépistage pour, disons, quantifier puis identifier la substance parce que cette substance a une courte durée de vie. Alors, dans la presse, vous avez ça. Rapidement, André Boisclair obtient une libération conditionnelle. Au début, c'était non, la première fois. Puis là, il a fait un peu de réflexion. On dit qu'il est mieux encadré, que des membres de sa famille vont le soutenir, qu'il a peut-être réalisé que ses comportements n'avaient pas de bon sens. Et on le sait, là, coupable quand même d'agression sexuelle. Puis on se souvient des détails qui étaient d'une violence qui était tout à fait sordide. Puis là, il y a une série de conditions, là, pas entrer en contact avec les victimes et de pas consommer d'alcool également. Aussi, ce matin, Montréal qui envisage de nouvelles taxes. Il manque 200 millions dans les caisses. Et là, parmi les idées, ce serait de taxer sur chaque kilomètre parcouru au volant d'un véhicule pour remplacer l'actuelle taxe sur l'essence. Également, on pense, nous dit-on dans la presse, à taxer les logements vacants, les stationnements asphaltés. Vous avez une entrée de cour, là, puis il y a de l'asphalte, puis la pluie s'en va dans les canalisations de la ville. Ben, vous devriez payer un peu plus. Des taxes qui existent dans certains cas dans d'autres villes comme Vancouver, Toronto, Ottawa. Mais en gros, ce que la ville nous dit, c'est que les taxes foncières comme telles, c'est pas suffisant, puis qu'on a besoin de revenus additionnels. Sinon, ben, on va devoir réduire les services de la ville. Il y a Valérie Plante qui s'excuse encore une fois pour les arrestations des manifestants toute la période, là, incluant le printemps érable. Je vous l'ai dit ce que j'en pensais, là. Je comprends qu'il y a peut-être eu des abus policiers, mais il faut juste se rappeler le contexte de l'époque. Il y avait des casseurs dans la place. Il y en a qui profitaient de ces manifestations qui se déroulaient tous les soirs, sans parcours, avec de la provocation, avec des roches, des boules de billard. Puis le manifestant qui, évidemment, joue à la victime de la répression policière, alors que sa présence est motivée par une question d'affrontement avec les policiers. Puis est-ce qu'il y a eu de l'abus? Est-ce qu'il y a eu trop de poivre de Cayenne? Bien sûr. Et je me souviens à l'époque, des gens qui me disaient, M. Arcan, les CRS en France savent beaucoup mieux contrôler des manifestations que les policiers de Montréal. Ouais. Ben, allez voir comment les CRS interviennent dans des manifs quand ça brasse. Tout ça pour vous dire, je suis d'accord, là, les excuses à répétition, là, on est bon là-dedans, là. Mais à un moment donné aussi, là, faut arrêter de... Puis là, je sais, il y a un jugement, il y a une entente, en fait, là, puis ils n'ont pas le choix de faire ça. Puis, en terminant, ben, on vous parlera également de la situation en Ukraine ce matin. Fabrice de Pierrebourg est sur place. Et vraiment, il y a eu une journée assez mouvementée hier. Il va nous donner tous les détails tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Ce matin, on va discuter de deux projets de loi importants qui sont présentement donc à la Chambre des communes, au Sénat, concernant d'abord la loi sur la radiodiffusion canadienne. Là, ça concerne évidemment les nouvelles plateformes, ça concerne le contenu canadien, ça concerne aussi le contenu francophone. Puis on a vu la réaction, par exemple, pour l'autre projet de loi sur les nouvelles en ligne, là, de Facebook qui menace finalement de bloquer le partage du contenu d'actualité canadien. Avec nous pour en parler, le ministre qui pilote les deux dossiers, ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, je veux commencer par le projet de loi C-11 là, sur la radiodiffusion. On est tous d'accord sur les grands principes, il faut mettre à contribution les autres joueurs, mais il y a beaucoup d'opposition jusqu'au Sénat concernant l'espèce de réglementation qui va suivre, puis jusqu'à quel point on va pas tomber dans une forme de censure. Vous, vous dites, on veut qu'il y ait du contenu canadien.
Ah oui, beaucoup plus, et en français aussi. Oui.
Et en français?
Ah oui. Absolument. En fait, pour faire ça assez simple, on demande juste aux streamers, là, qu'on aime beaucoup les Netflix, Disney et autres, de contribuer à la création de contenu en anglais, en français, partout à travers le pays.
Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils mettent de l'argent ou vous voulez qu'ils programment du contenu canadien et francophone?
Deux choses. Tout d'abord, il y a une contribution financière. Ils viennent chez nous, ils font énormément d'argent, on est bien contents pour eux, mais en même temps, il faut qu'ils contribuent financièrement à la création de plus de contenu de chez nous. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle la découvrabilité. Rappelez-vous, à l'époque, lorsqu'on allait acheter un disque ou un CD, on allait payer, puis à la caisse, on voyait mis de l'avant un disque quelconque ou on écoutait dans des petites cabines des extraits d'un ou l'autre des disques mis de l'avant. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce sont les listes nous écoutent, c'est ce que les plateformes nous suggèrent. Et nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait plus de contenu de chez nous, plus de contenu québécois, plus de contenu francophone et de partout au pays.
Mais pour que les gens comprennent encore mieux, là, ça pourrait coûter combien à Netflix, à Spotify, ce genre de mesure?
Il n'y a pas de prix comme tel parce qu'on a une approche qui est très flexible. On tient compte du fait que chacun a son modèle d'affaires. Donc, on sait très bien que Disney, Netflix, c'est pas la même chose du tout. Donc, ils vont pouvoir contribuer de façon différente. Netflix, par exemple, pourrait décider de faire plus de productions chez nous. Disney pourrait dire, écoute, moi, je n'irai pas faire Star Wars chez vous, pantoute, mais je suis prêt à contribuer à un fonds. Donc, on offre toutes ces possibilités-là.
Mais vous prévoyez combien d'argent de plus dans la caisse, au total?
Les chiffres vont à peu près entre 800 millions à 1 milliard par année. Là, c'est des estimations. Mais on verra évidemment lorsque ça sera en application.
OK, mais je prends encore l'exemple de Netflix. Quand vous dites investir, ils peuvent aussi bien venir tourner des films en Alberta ou à Montréal, mais qui n'a rien à voir avec le contenu canadien. Là. Ça peut être des films, des productions étrangères, puis ils viennent ici parce que c'est pas trop cher, ouais, c'est moins cher.
Oui, puis ils viennent ici parce qu'on est bon.
Parce qu'on est bon aussi, c'est vrai.
Parce qu'on est bon, parce qu'on est près de la frontière, parce que le taux de change est bon, parce qu'il y a des bons crédits d'impôt également aussi. Mais il faut qu'il y ait des critères qui soient respectés. Qui sont les acteurs principaux? Qui est le directeur? Qui est le réalisateur? Et ainsi de suite. D'ailleurs, on va moderniser ce qu'on appelle le contenu canadien. Là, sous peu, je vais envoyer des directives au CRTC dès que le projet de loi sera adopté. Mais il faut évidemment qu'il y ait un ensemble de facteurs qui fassent en sorte que ce qui est tourné soit canadien.
Qu'est-ce qui va changer dans la définition du contenu canadien?
Ça dépend, c'est le CRTC qui va le déterminer. Il y a un paquet de jobs qui n'existaient pas auparavant. Il y a beaucoup de séries télévisées qui se font actuellement. Il y a des choses qui se font directement en ligne. Des postes qui n'existaient pas aujourd'hui, qui par exemple aujourd'hui devraient être détenus par des Canadiens. Donc ça va dépendre.
Mais là où il y a beaucoup de réticence, c'est qu'on se dit là, de voir l'État se mettre le nez dans ce qui se passe sur YouTube, puis qui veut réglementer, puis qui veut... Margaret Atwood, là, c'est quand même pas... C'est une grande Canadienne, là, oui. Puis c'est pas quelqu'un là, qui grimpe dans le rideau facilement, là. Elle est partie après vous, là.
Ben oui, puis j'ai demandé, quand j'ai lu ses propos, je comprenais pas.
Elle, ce qu'elle dit, là, c'est, puis je mesurais mes propos, là, mais le gouvernement qui se met le nez dans la culture à ce point-là, puis qui réglemente, là, il est pas loin d'être fasciste, puis de vouloir interdire, puis c'est de la censure, puis ça, les servantes écarlates, là, on est en train de vivre ça au Canada, là.
Mais c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, il y a rien dans le projet de loi qui nous amène vers ça. C'est le discours des conservateurs qui essaie de lier ça à une attaque à la liberté d'expression. Et c'est nulle part dans le projet de loi. Je sais même pas pourquoi.
Mais ça peut être
dans
un règlement, par exemple.
Non plus, parce que le projet de loi demande simplement aux streamers, encore une fois Netflix, Disney et autres, de contribuer. Et savez-vous quoi, M. Arcand? Ils sont d'accord. Ils ont embarqué. Là. Au début, il y avait de la réticence. Ils sont tous d'accord. Ils ont dit, on est rendu là. Il n'y a rien qui nous régit, nous, c'est nos plateformes. On va jouer le jeu. On va embarquer avec vous autres. Travaillons ensemble. Puis c'est très bon. Il y a uniquement les médias sociaux, en fait, en YouTube, qui dit, ben moi, ça me tente pas vraiment. Parce que voyez-vous, M. Arcand, une très grande partie des gens écoutent la musique sur YouTube sans qu'il y ait aucune conséquence, sans qu'il y ait à payer quoi que ce soit. Et moi, ce que je dis, c'est que si vous prenez la même chanson, vous l'écoutez du début à la fin sur YouTube, ben ça doit être la même chose que sur Spotify. C'est-à-dire que ça doit être compté également.
Un créateur, un artiste qui met en ligne actuellement vidéo sur YouTube pour se faire découvrir puis présenter sa musique. Qu'est-ce qui va changer
rien,
dans sa vie?
Rien. C'est ça l'affaire. C'est que c'est méconnu. Je pense que les conservateurs ont poussé ça extrêmement loin. Rien. Ça m'intéresse pas. En tout respect, là, on a des créateurs absolument extraordinaires. Ils sont parmi les meilleurs au monde. Mais je ne m'intéresse pas à leur contenu. On n'a pas à juger de leur contenu. Du tout.
Vous n'allez pas vous mêler de ça en disant c'est canadien, pas assez canadien, ou ça faudrait que ce soit un petit peu plus canadien, ou...
Imaginez, M. Arcand, combien de contenus, combien de vidéos sont, comme on dit en anglais, uploadés à chaque jour. Un, je m'intéresse pas. Deux, si on s'y intéressait, on ferait comment avec le CRTC? Il y a quoi, 300-400 employés? Des dizaines de millions de vidéos par jour? C'est absolument pas le cas. On veut simplement s'assurer de deux choses, c'est que les streamers contribue à la création de contenu canadien, incluant la musique, là. Et le projet de loi est appuyé et défendu par la Disque, par l'Union des artistes, par à peu près tout le monde au Québec. Et on veut aussi qu'on puisse découvrir des œuvres de chez nous, plus, peut-être plus de tonnes de chansons québécoises.
Mais c'est ça que je veux bien comprendre, là, parce que le ministre Lacombe a dit dans une entrevue que, même si c'est pas officiellement dans sa juridiction, là, qui veut forcer les Spotify, Netflix à mettre en valeur et en évidence les produits québécois. Lui, le ministre de la Culture du Québec, là. Êtes-vous d'accord avec ça?
Absolument. Et c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je pense que, j'ai parlé souvent avec M. Lacombe, à qui je m'entends extrêmement bien par ailleurs, mais C11 va déjà faire ça, là. Et c'est pourquoi il y a l'appui de la disque de à peu près tout le monde au Québec.
OK, mais est-ce que lui, il demande d'avoir une espèce de lien direct avec le fédéral, puis avec le, tu sais, que ça soit clairement établi qu'il faut reconnaître le côté spécifique du Québec dans ça? Êtes-vous prêt à aller jusque-là?
Ben, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, le projet de loi, il est à toute fin pratique. Passé, là. Donc, mais c'est certain qu'on va consulter Québec. D'ailleurs, on a eu des discussions pendant tout le processus où les Québécois, on est une société distincte, on est différent de par la langue, de notre culture, de bien des choses. C'est évident qu'on va tenir compte de ça lorsqu'on va de l'avant. Là.
OK. Mais je vous le dis, la crainte, là, puis j'ai beaucoup de créateurs là, qui résonnent là, en disant là, on n'aime pas ça, les règlements. Il y a quelque chose c'est mystérieux. C'est-à-dire, le principe est là, puis l'État arrive par en arrière avec une trolley de règlements, puis c'est quand ils sont appliqués qu'on mesure l'effet.
Oui, parce que, encore une fois...
C'est le mot censure, là. C'est ça qui est achalant.
Mais il n'y a rien à voir avec le projet de loi, M. Arcand. Je dis ça en tout respect, là. Mais c'est simplement faire deux choses pour avoir plus d'argent pour le contenu francophone, québécois, canadien, puis qu'on découvre mieux nos œuvres, là. Que les chansons de nos artistes, là, on puisse les trouver plus facilement. C'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Et le gouvernement n'a aucun intérêt de vérifier le contenu de tous et chacun. Puis, okay. Encore une fois, si on voulait, là, on pourrait pas.
Vous avez dit à plusieurs reprises, et ça s'inscrit dans le cadre de cette démarche, de faire jouer au fédéral un rôle dans la protection et la promotion du français. Je vous fais entendre la pub du gouvernement du Québec qui a été présentée hier, puis j'aimerais ça avoir vos commentaires, vos réactions.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Vous en pensez quoi?
Qu'on essaie de dire que le français est menacé, ce qui est vrai, ce qui est reconnu par le gouvernement du Canada, qu'il faut en faire plus également. Et on est d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, comme fier francophone, je suis d'accord.
Marc Garneau, lui, n'était pas d'accord à l'époque trop. Oui, est-ce que c'est pour ça qu'il est parti, vous pensez?
Non. Pas du tout. J'ai eu des bonnes discussions avec lui et j'étais en désaccord avec lui. Et c'est sain au sein d'un caucus d'un parti, là. Et je suis en désaccord avec mes collègues anglophones sur bien des points. Eux ont un point de vue qui est différent. Ils ont certaines inquiétudes qui, à mon avis, sont non fondées parce que le projet de loi du gouvernement du Canada sur la langue officielle vient renforcer le français tout en protégeant les droits des minorités anglophones. Alors, et d'ailleurs, c'est important que ce projet de loi y a de l'avant. Là. On a assez discuté. Là.
Parce que c'est pas juste un désaccord. Des fois, c'est de la désinformation complète et totale. Là.
Oui.
Basée sur des perceptions erronées, là.
Ouais, je peux pas catégoriser chacun des commentaires.
Sérieusement, là, on dit qu'au Québec, on veut pas se faire soigner. Ouais, on peut pas se faire soigner en français, en anglais, au Québec,
c'est,
là.
Non, c'est sûr qu'on peut se faire soigner. Non, vous avez raison. Mais encore une fois, il y a des discussions à l'intérieur du caucus. Mais il est temps qu'on en avance. C'est un bon projet de loi. C'est un projet de loi qui, pour une fois, au fédéral, vient reconnaître qu'il y a une asymétrie, que c'est pas vrai que les deux langues sont menacées de la même façon. Le français l'est. L'anglais l'est pas. Il faut en faire plus. Moi, je veux dire, comme fier francophone, je parlais pas un mot de français quand je suis arrivé ici, là. Puis, je suis tombé à l'amour avec le français. Je l'ai appris. Et je fais tout ce que je peux pour le défendre. Et je vais vous dire, M. Arcand, qu'on va le faire du côté d'Ottawa.
OK. Meta qui a dit qu'il était pour bloquer le partage du contenu d'actualité du Canada, là, Facebook, Instagram. D'abord, est-ce que la menace est toujours présente? Puis deux, qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Ben, on la prend au sérieux. De la même façon que Google a bloqué l'accès aux nouvelles pour 1,2 million de Canadiens. Moi, je trouve ça absolument, inacceptable, là. C'est pour intimider le gouvernement. Pensez-y, là. Google détient 93% du marché de recherche. Ils peuvent bloquer les nouvelles pour tout le monde s'ils le veulent. Et moi, je pense que dans une démocratie, dans une société de droit, ça peut pas être de même. Ces géants du web là nous disent, moi, j'ai jamais eu de règles, j'ai jamais eu de projet de loi qui me régit, j'en veux pas. Moi, je leur dis, non, c'est pas vrai, là. C'est un nouvel environnement, il faut qu'il y ait des règles pour tous, incluant pour vous.
Mais avez-vous le pouvoir de les faire changer d'idée? Comment vous pouvez les forcer à faire marche arrière?
Ben moi, je pense que c'est une question de gros bon sens. Dans le fond, ce que ces 18 demandent, là, c'est comme s'ils mettaient une table dans le milieu puis qu'ils disaient à ces gens du web-là, Facebook, Google, assoyez-vous avec l'écosystème des médias canadiens et arrivez à des ententes. Parce que, M. Arcand, notre société est en train de s'affaiblir. Vous avez plus de 460 salles de nouvelles qui ont carrément disparu. Des grands médias, des petits, des radios communautaires, etc. Des milliers de jobs de journalistes perdus. Qu'est-ce que ça fait, ça? Plus de place pour la désinformation, plus de place pour la polarisation. Notre société, est-ce qu'elle se renforce? Non. Est-ce que la démocratie se renforce? Non. Elle s'affaiblit. Alors, il y a deux joueurs qui vont chercher 80% de tous les revenus de la publicité en ligne. Vous avez 10 milliards là, dans le marché, il y a 80%, 8 milliards qui s'en vont à ces deux compagnies-là. Et moi, je dis non, non. Vous allez faire votre part, il faut préserver notre système de
Ben, vous pigez dans notre contenu, ça serait bien d'en payer le prix.
Ben, c'est parce que c'est comme dire, ce qu'il dit, c'est que ce que vous faites là, ce matin, là, puis que votre équipe en arrière de moi ici fait, là, ça n'a pas de valeur. C'est pas vrai. Ça a une valeur, ça doit être payé, ben, qu'il le fasse.
Fait que c'est une partie de bras de fer entre vous et eux, là.
Ben, oui, comme disait Marc Métier, ben, ils sont gros, ils font peur, mais on a la force mentale, M. Arcand.
Pas pris celle-là. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Ah, attendez, j'ai une autre question à vous poser en terminant. C'est un de mes collègues ici qui se pose des questions sur vos cheveux. Avez-vous une recette spéciale?
Je dois tout à mes parents, M. Arcand.
C'est la génétique?
J'ai remarqué, oui.
Il me paraît que vous recevez des courriels de gens qui vous demandent de vous couper les cheveux.
Ah oui, quand j'ai les cheveux trop longs, c'est un certain appel au bureau pour leur dire de me faire couper les cheveux,
Puis vous cédez pas aux pressions.
Pas vraiment. Si
pas
j'ai
plus que Google,
si
Facebook.
Si j'ai pas cédé à Facebook, non.
Merci d'être venu. Pablo Rodriguez, c'est le ministre du patrimoine canadien. Alors, je le disais, donc, Québec qui veut encadrer les pratiques policières comme ce qu'on appelle un peu un profilage criminel, par exemple, ou encore des interpellations. Le ministre de la Sécurité publique est avec nous, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce que vous voulez exactement faire avec le projet de loi?
Il faut comprendre. Le premier point, M. Arcand, c'est un travail qui a été fait, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par le comité consultatif sur la réalité policière, sur le groupe d'action contre le racisme, différents corps de police que j'ai rencontrés dans les dernières semaines, des groupes aussi. Et un des points principaux que je trouve intéressant dans cette loi, premièrement, c'est d'outiller les policiers pour être capables de retrouver des personnes disparues. Il faut comprendre, vous le savez, les premières heures sont importantes lorsqu'un enfant pourrait avoir été enlevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est sur ordonnance d'un juge, on va permettre donc aux policiers d'avoir des informations pertinentes sur le cellulaire de la personne qui pourrait avoir enlevé un enfant ou, exemple, pourrait être disparu. On peut prendre le cas malheureux de M. Roy, le président de Savoura, qui s'est écrasé avec son hélicoptère et son fils, aller chercher des infos de santé, des infos bancaires, donc les données de géolocalisation. On est allé chercher les meilleures pratiques qui se font ailleurs au Canada, exemple au Manitoba et en Ontario, pour être capable de donner plus d'outils et, je l'espère, sauver des vies.
Mais est-ce que, par exemple, ça aurait changé quelque chose dans l'affaire de Martin Carpentier, l'homme qui avait donc enlevé deux enfants, qui avait tué les enfants avant de se suicider? Je sais qu'il y a une enquête du coroner, là, mais il semblait avoir, disons, un certain problème de logistique.
Bien, assurément, hein, M. Arcand, c'est pour ça que je dis que c'est pas juste la personne qui est disparue, c'est, exemple, un mineur qui pourrait avoir été enlevé par un de ses parents. Et si on considère qu'on doit obtenir des informations le plus rapidement possible, ben l'ordonnance du juge va permettre aux policiers d'obtenir des informations sur la personne qui pourrait avoir enlevé donc un enfant, un mineur là, qui nécessairement n'a pas de cellulaire avec lui. Donc, je pense que c'est un pas important pour être capable d'obtenir des infos et de sauver, on le souhaite, des vies. Donc, c'est souvent une question de vie et de mort quand qu'on a des personnes disparues. Alors, je pense que c'est un pas en avant important.
OK. Maintenant, pour les policiers, il y en a beaucoup qui vous écoutent ce matin, là, qui font des interventions, qui, par exemple, disent, est-ce qu'on est en train de nous menotter si on peut pas faire d'interception, de profilage, je dis bien criminel? Le gouvernement va nous enlever des outils.
Non, il faut surtout pas que les policiers nous écoutent. Qu'ils croient aujourd'hui qu'on fait ça pour une forme de désengagement ou que ce soit encore plus compliqué de faire leur travail. Ce qui est important, comme je le disais d'entrée de jeu, comité consultatif à réalité policière et le groupe d'action contre le racisme nous ont donné des recommandations. Puis une des recommandations qui est celle de diffuser des lignes directrices qui vont concerner les interpellations policières et les interceptions, c'est la recommandation 36. Donc, ils le savent déjà depuis 2 ans. Parce que le projet de loi avait été déposé sous l'ancienne législation, on revient à la charge avec ça. Ce qu'on souhaite, c'est colliger des informations. Il faut savoir qu'il y a à peu près une demi-douzaine de corps de police au Québec qui le font déjà, pour ne pas nommer Laval, Québec et Longueuil. Donc, c'est des informations qui vont être pour nous intéressantes. On va demander aux corps de police de colliger ces infos, de nous envoyer ces infos une fois par année pour être capable d'avoir d'informations additionnelles dans le futur.
OK, mais je vous donne un exemple. Quand on parle de profilage et d'interpellation, là. Moi, je suis policier, je travaille dans un parc industriel un soir, il y a eu une série de vols, puis on a comme description une camionnette bleue, mais on n'a pas d'autres détails. Est-ce que c'est normal dans mon travail de policier d'intercepter une camionnette bleue que je vois qui ressemble au véhicule recherché?
Absolument. C'est une question de sécurité, M. Arcan. Dans ces conditions, si le policier suspecte quoi que ce soit, ben c'est une question de sécurité. Ça peut être une question de vie ou de mort. Puis dans ces conditions, le travail du policier va continuer d'être fait. On ne veut pas les empêcher. M. Arcan, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de profilage? Oui. Mais on ne doit pas mettre tous les policiers dans le même bain. Et dans ces conditions, pour moi, c'est important de leur dire que le travail a bien évolué dans les 20 dernières années. On veut moderniser la loi sur la police. Ça n'a pas été fait dans les 20 dernières années, mais on ne veut pas les empêcher de faire leur travail. On veut qu'ils continuent de faire leur travail, qu'ils aiment leur travail et qu'ils continuent de protéger les Québécois.
OK. Je vous donne encore, pour les fins de la discussion, d'autres exemples. Gang de rue, on a eu des phénomènes graves à Montréal, puis on sait que ça va recommencer avec le printemps, là. Et quand on a des suspects identifiés, par exemple, puis on le sait, le gang de rue, c'est basé sur une appartenance ethnique.
Ouais.
Qu'il y a eu, je sais pas, fusillade, deux morts, deux jeunes qui ont été blessés ou tués, puis qu'on se retrouve avec une description de suspect d'intercepter une voiture avec trois jeunes noirs dans un contexte d'enquête. Est-ce que pour vous, c'est du profilage racial?
Tout doit être fait dans un contexte de sécurité. Il est normal que si on suspecte des personnes X de couleur X, que le policier doit faire son travail. C'est pas parce que j'encadre ça aujourd'hui qu'on diffuse les lignes directrices que du jour au lendemain, le policier dit « Ben moi, je bouge plus ». C'est pas ça du tout qu'on veut faire, là. On veut qu'ils continuent de faire leur travail. On va juste encadrer ces lignes directrices pour qu'il n'y ait pas de profilage. Mais je veux que les policiers se disent que ça soit simple de colliger ces informations. Je veux pas qu'ils se disent « OK, je fais une interpellation, une interception. Ça me prend une demi-heure pour remplir un document. » C'est pas ça du tout. On va rendre ça le plus simple possible. Ils doivent bien continuer de faire leur travail. Ils le font déjà très bien.
OK, mais ce que vous voulez éviter, c'est ce qu'on a déjà vu dans le passé, parce que beaucoup de mes auditeurs ont témoigné de ça, là. Un jeune noir, un jeune latino qui est au volant d'un véhicule, disons, un peu luxueux, qui se fait intercepter. Il n'y a pas de motif, mais on dit, ben, ce que tu fais là, puis c'est bizarre, puis c'est pas normal qu'un jeune noir, puis on l'a vu dans le cas d'athlètes qui avaient beaucoup d'argent puis qui sont fait intercepter à Montréal. Disons que là, on était dans du profilage racial.
Et puis le jugement, hier, Joe l'a dit, là, j'essaie pas de dire le contraire. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu de cas de profilage. Mais il faut pas mettre tous les policiers dans le même bain. Là. Oui, il y a eu des plaintes à la commissaire dans les dernières années. Oui, il y a des plaignants qui sont venus me dire, François, tu dois agir là-dessus. Maintenant, on va mieux encadrer, mais il faut dire aux policiers que leur travail est immensément important et c'est pas un frein face à la répression cette fois aujourd'hui. C'est un encadrement, une modernisation qui va être importante pour leur rôle et je veux qu'ils le sachent aujourd'hui.
Parfait. Merci, M. Bonnardel. Bonne journée.
Merci, M. Bonnardel.
Au revoir. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
Je reviens sur ce drame à Amqui. D'abord, le premier ministre Legault sera présent avec les chefs d'opposition aujourd'hui. Pour ce qui est de l'accusé, bon, ben, il y a d'autres étapes de prévues en cours. Il y a beaucoup de vidéos de lui qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et on ne jouera pas au psy ce matin ou à l'expert, là, mais c'est quelqu'un qui délire. En tout cas, qui a des pensées délirantes. Et qui, comme beaucoup, on l'a vu là, durant la pandémie, ça a pris comme beaucoup d'ampleur. Donc, qui commande des sujets d'actualité, mais qui est dans sa bulle, dans son univers et qui est dans la, je dirais, les notions de complot en permanence. Bref, ce que je veux dire, là, il a pas l'air bien, puis il a l'air à carburer à toutes ces folies qu'on retrouve sur le web. Pour ce qui est de son état comme tel, et je rappelle ce point important de Dr Coton, hier psychiatre, qui était là, n'oubliez pas, la grande majorité des gens qui font ces crimes en série, ces tueries en série, là, de masse, c'est-à-dire, sont des gens qui n'ont pas un problème de santé mentale comme tel. Ce sont des gens qui peuvent avoir un profil dépressif, ils vivent de l'isolement, ils vivent des situations, par exemple, de consommation de drogue, d'alcool. Bref, ils en arrachent dans la vie. Et c'est souvent ça le profil qu'on voit. Je pense que c'est important de le dire. Mais ce matin, je vais attirer votre attention aussi sur l'offre pour aider les gens qui ont des problèmes. L'offre de psychologues, par exemple, dans la région d'Amqui, dans la région au complet, au grand complet de Rimouski, Matane, Matapédia. Et dans le soleil ce matin, on découvre que finalement, il faut rouler pas mal pour obtenir des services. Docteur Karine Gauthier est avec nous, psychologue clinicienne et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Docteur Gauthier, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la réalité d'un citoyen d'Amqui qui est, mettons, dépressif, qui va pas, qui veut obtenir de l'aide? Est-ce qu'il y a des professionnels à Amqui ou s'il doit se déplacer?
C'est très difficile. Quand on a demandé à nos membres par rapport au CLSC d'Amqui, on avait un psychologue pour adultes seulement. Et puis, pour les 0-18 ans, le poste n'est pas comblé de psychologue depuis plusieurs années qu'on s'est fait dire. Donc, c'est excessivement difficile. Donc, les personnes doivent se déplacer. Même à Matane, qui est quand même loin, il n'y aurait plus de psychologue, en tout cas pour adultes, depuis au moins 7 ans. Donc, le poste aurait été même transformé. Donc l'accès à des services de psychologue est très, très difficile pour eux.
Et dans le cas de la psychiatrie, c'est, j'imagine, la même chose, sinon pire.
Oui, c'est ça qu'on voit aussi, qu'à l'hôpital, ils n'ont pas de psychiatre, donc l'accès est difficile. Puis on sait que on travaille en équipe dans le réseau. Là, souvent, on a besoin justement d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un travailleur social, d'une psychoéducatrice aux besoins. Donc ça non plus, c'est pas accessible finalement, des soins intégrés en équipe pour vraiment répondre aux besoins de l'individu. C'est beaucoup de déplacements pour eux.
Docteur Coton nous disait hier matin que, bon, on devinait que la plupart de ces crimes de masse sont l'objet d'hommes et que des hommes qui ont des problèmes de santé mentale ou même des problèmes, je dirais, de comportement, des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, des gens qui vivent des moments difficiles, c'est pas des gens qui sont portés, les hommes sont pas portés à aller chercher de l'aide, mais ça doit être encore pire quand l'aide est à peu près pas disponible dans ton coin.
Oui, effectivement. Puis moi, je dirais, tu sais, personnellement, je travaille à temps plein là dans le réseau, puis je vois de plus en plus, par exemple, de jeunes hommes là qui en demandent de l'aide, puis qui même parlent de leur anxiété. Donc, on dirait, en tout cas, ça fait plus de 15 ans là que je travaille, 20 ans que je suis psychologue. Puis je vois un changement honnêtement en lien avec l'ouverture, surtout des jeunes là, parce que je travaille avec les jeunes, mais une ouverture pour parler de leur santé mentale. Puis il y en a quand même là, tu sais, des gens qui vont demander de l'aide, mais c'est sûr que quand l'aide est difficilement accessible, puis les gens le savent, ben là, il y a comme souvent un découragement qui peut venir, puis une résignation un peu. Ok, ben faut que je me débrouille toute seule finalement, parce que dans ma région, c'est pas accessible, puis pas accessible non plus, tu sais, gratuitement, ou le type de service que j'ai besoin est pas accessible. Donc là, c'est une raison de plus pour dire ok, ben finalement, j'irai pas, parce que ça prend beaucoup de courage là pour demander de l'aide, comme vous dites, surtout pour les hommes. Donc quand il y en a pas disponible, ben il y a comme une porte qui se ferme là, quand on se sentait vulnérable, puis on se sentait prêt finalement à avoir de l'aide, puis là, ben, il y en a pas qui est disponible. Ça peut faire en sorte qu'on se referme, puis on s'isole, puis on en redemande plus finalement, parce que c'est difficile, c'est pas facile à faire.
On parle, beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Parlez-moi des mouvements de personnel chez les psychologues du secteur public. On est dans quoi, la case plus de départ que d'arrivée?
Oui, c'est excessivement préoccupant, puis ça va à la vitesse grand V, là. Nous, on a regardé avec les chiffres de l'Ordre des psychologues du Québec. On voit que juste par rapport à l'année passée, il y a eu 5 fois plus de départs vers le secteur privé de psychologues. Donc, juste en 1 an, donc c'est excessivement préoccupant. On voit vraiment un exode. Puis on sait que les services publics sont gratuits, sont intégrés dans des équipes. Très important pour la population de pouvoir accès à ces services-là là, qui sont uniques. Puis il y a des population qui doivent absolument avoir des services dans le réseau public. Là, si on parle des personnes qui ont des troubles alimentaires vraiment importants, par exemple, ou en traumatologie, par exemple, une équipe dans laquelle je travaille, ou les jeunes qui ont des maladies chroniques, ou les adultes là, qui ont des maladies qui sont hospitalisés, qui ont besoin d'aide pour l'adhérence à leurs traitements médicaux, c'est très pointu. Donc, il y a des domaines où vraiment c'est essentiel. Dans les écoles, il y a une grosse diminution aussi du nombre de psychologues. Ça, c'est vraiment important parce que c'est l'accès rapide. T'sais, dans le fond, faut vraiment aller dans la prévention là. Puis la prévention, ça veut dire de commencer très tôt dans la vie d'un jeune qu'on voit qui commence à avoir des problèmes au niveau de son comportement, au niveau de son humeur. Puis l'école, c'est tellement une belle porte d'entrée pour que l'enseignante parle à la psychologue. Là, il peut avoir la psychoéducatrice aussi qui est impliquée, puis la psychologue pour l'aspect psychologique. Une très, très belle porte d'entrée, mais malheureusement, il n'y en a presque plus. Là. Il y a, pour vous dire, dans les écoles secondaires, il y a environ 200 quelques psychologues pour tout le Québec. Là. Donc, on est loin là, d'avoir un accès facile au service.
C'est clair. Merci beaucoup, Dr. Gauthier. Bonne journée. Dr. Karine Gauthier, la psychologue clinicienne et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. On va maintenant parler à Monsieur Alain Tessier, qui est le directeur du bureau des enquêtes de la SPCA, concernant l'histoire d'un individu qui s'appelle Marc-Antoine Côté, qui a été condamné à une peine de prison. Et c'est probablement une des peines les plus sévères, là, en matière de cruauté animale. Et vous allez voir, puis je veux pas entrer dans l'horreur pour l'horreur, mais que des gens soient capables de faire ça à des animaux, c'est d'une violence inouïe. Monsieur Tessier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, c'est rare les peines de prison comme telles pour des gens qui ont des comportements violents à l'endroit des animaux?
Écoutez, qu'est-ce qu'on a présentement? C'est une des plus grandes peines qui a été donnée ici au Québec. Je pourrais pas vous parler au Canada. Il semble que ailleurs au Canada, on a eu des peines plus sévères, mais ici au Québec, c'est parmi les plus grandes peines qu'on a obtenues.
OK, c'est 16 mois d'emprisonnement.
C'est ça, 16 mois d'emprisonnement. Et faut comprendre que depuis l'arrestation de M. Côté, qui a eu lieu en novembre 2022, M. a été gardé incarcéré jusqu'à son procès.
OK. J'aimerais qu'on reprenne ça un peu du début. Comment le cas de M. Côté vous a été signalé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme enquête? Qu'est-ce qu'on a appris sur son comportement?
Écoutez, c'est le premier dossier, parce qu'on a deux dossiers avec M. Côté. Oui. Le premier dossier est survenu en mars là, 2022, où un patrouilleur là, un agent de la patrouille animale de la Ville de Montréal a récupéré là, une chatte décédée dans la neige sur le terrain de M. Côté et l'a signalé au bureau des enquêtes là, de la SPCA Montréal. Il y a eu une enquête qui a été amorcée et l'enquête a démontré que la chatte avait été battue. Les examens post-mortem, effectués ont démontré là, que la chatte avait probablement été lancée de très haut et qu'elle avait aussi de vieilles blessures, là, de fractures et autres lésions qu'elle avait subies dans le passé. Dans le cours d'enquête, un autre dossier est entré à ce moment-là en septembre, où un chien était retrouvé aussi là décédé dans les poubelles chez Monsieur Côté. Et là, suite à cette enquête-là qui s'est entamée aussi, il y a eu arrestation de Monsieur Côté.
OK, donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a strictement tué un chat ou un chien, c'est quelqu'un qui, pendant une période de temps, si vous me parlez de lésions qui ont été découvertes, qui a maltraité, qui a battu ces animaux-là à répétition.
Effectivement, les examens et l'enquête démontrent là, que, entre autres, la chatte là, avait été battue là, pas juste le soir de son décès, mais dans les semaines précédentes aussi.
Est-ce que M. Côté a présenté une forme de défense?
M. Côté plaidait coupable aux accusations en novembre cette année. Il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation pour avoir tué tant le chat que le chien.
Mais savez-vous pourquoi il a tué le chat puis pourquoi il a tué le chien?
Non, ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre les raisons pourquoi il a fait ça.
Est-ce que, question peut-être bizarre un peu, mais est-ce qu'il y a une interdiction de posséder des animaux qui peut être imposée dans des cas comme celui-là?
Effectivement, la peine qui a été imposée à M. Côté, effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, là, une peine d'incarcération de 16 mois. Et à ça s'ajoute une ordonnance de probation de 3 ans, incluant là 2 ans de suivi obligatoire avec un agent de probation et une interdiction à vie de posséder des animaux.
Ça, c'est la meilleure nouvelle en soi. Je veux bien la prison, là, mais au moins, ce gars-là n'aura plus de contact avec des animaux, ce qui est déjà ça de prix. Merci, M. Tessier.
Merci beaucoup.
Au revoir. Alain Tessier, le directeur du bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal, mais c'est vraiment un des cas les plus lourds là, de violence envers des animaux. Très bien. Et juste une précision qu'on nous donne à l'instant. Le musée de Pointe-à-Calière sera fermé pour la journée. Là. Je pense qu'on pouvait s'y attendre, mais disons que c'est confirmé. Allons retrouver notre collègue Fabrice de Pierrebourg qui est en Ukraine. Je vous le dis tout de suite, Fabrice a passé toute la journée hier au sein de la 10e brigade d'assaut. C'est dans le nord de Bakhmout en Ukraine. Et Fabrice, d'abord bonjour et deuxièmement, semble-t-il que la journée hier a été assez mouvementée.
Oui, bonjour Paul. Effectivement, la 10e brigade d'assaut, c'est une unité tactique qui a quand même quelques années d'existence. Ils ont été honorés récemment par le président ukrainien pour leur bravoure. Et ils ont des tanks, des mortiers, des drones pour ce qu'ils disent envoyer des cadeaux sur la tête des Russes. Ils font des missions de reconnaissance. Et en ce moment, effectivement, ils sont au nord-nord-ouest de Bakhmout. Évidemment, on ne donnera pas l'emplacement exact. Puis j'ai eu le droit vraiment à une plongée, je dirais, directe dans la réalité hallucinante de cette bataille de Bakhmout qui se déroule aussi dans les campagnes aux alentours. Donc c'est un décor de vastes plaines avec des petites collines, des boisées. Puis on est tout le temps dans une espèce de boue collante, l'humidité. Et puis un bruit incessant de bombardements, entrant, sortant. On ne sait plus trop de quoi il s'agit. C'est semblable, moi je compare ça à un roulement, un grondement de tonnerre perpétuel, ininterrompu. Beaucoup de stress. Puis aussi, encore une fois, des soldats qui doivent se débrouiller avec un matériel vétuste, que ce soit des tanks, des mortiers assez anciens, et qui maintiennent en état par un miracle perpétuel. On est arrivé au début dans un petit village abandonné. Là, c'est la base d'un détachement de tanks, justement des vieux tanks soviétiques T-72, qu'ils essayent de cacher tant bien que mal dans un boisé. La plupart de ces soldats habitent dans des maisons abandonnées. Ils restent pas près de leurs tanks, c'est trop dangereux à cause des drones russes. Donc, ils sont sur appel. Dès qu'ils reçoivent un appel, ils courent à travers un champ, ils se mettent en position et ils peuvent aller jusqu'à entre 1 à 5 kilomètres en arrière des lignes russes. Et un des soldats qui était là, un des conducteurs de tanks, me dit qu'ils sont là depuis 2 semaines, mais lui, ils sont tout le temps en opération. Il n'a pas vu sa famille depuis environ 6 mois. Alors, les conditions dans lesquelles ils vivent, évidemment, sont très sommaires. Ils campent dans ces vieilles maisons. Ensuite, on a pris un blindé de transport de troupes soviétiques, aussi un BMP. Et là, c'était pour s'approcher environ 1-2 kilomètres des lignes russes pour rejoindre l'unité de mortier. Ça a été un voyage épique, Paul. C'est comme j'ai voyagé sur ce blindé. Ça saute de partout. Il y a des ornières boueuses épouvantables. On est dans l'odeur du gasoil, la fumée. Puis surtout, la hantise d'être repéré par un drone et d'être frappé comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de voyager dessus. Et on est arrivé à cette petite position de mortier qui ont des mortiers de 120 mm. Eh bien, ils sont abrités, ils vivent jour et nuit dans une espèce de ponceau désaffecté, rempli d'une espèce de d'eau boueuse. La seule chose qui est moderne, là, c'est leur antenne Starlink qui leur permet de communiquer comme partout sur le front ukrainien. Ils sont aménagés un coin pour dormir et eux aussi attendent les appels, c'est-à-dire qu'ils reçoivent sur leur cellulaire une position à frapper. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Ce trou-là, c'est à peu près 5 mètres de profondeur. Il faut monter à la surface en escaladant des boîtes de munitions qu'ils ont empilées pour faire un escalier. Et à chaque fois, bon, c'est la même routine. Ils dégagent les mortiers qui sont cachés par des branches d'arbres parce qu'il n'y a pas de feuilles, évidemment, à cette époque-là. Et ils n'ont même pas de filet de camouflage.
ils règlent leur mortier, ils font le tir. Hier, ils sont sortis à peu près 3-4 fois pendant qu'on était là, dont une fois pour tirer des obus fumigènes, pour dégager des collègues de l'infanterie qui étaient en mauvaise position plus loin face aux Russes. Le commandant de cette unité, ce qu'il me dit, c'est que depuis 2 semaines, il a remarqué que les Russes utilisent de plus en plus des armes, on dirait assez controversées, des bombes au phosphore notamment et des bombes à sous-munitions. Les bombes au phosphore, c'est très réglementé comme usage. Et j'ai personnellement vu des... Ça laisse au sol des espèces de petits tas semblables à de l'aluminium. Et ça, c'est les images qu'on voit souvent éclairer ça la nuit. On voit ces filaments incandescents qui tombent. Ça met le feu partout. Ça provoque des brûlures extrêmement graves sur les soldats. Mais aussi les civils sont encore là. Et lui me dit, ils ont un gros problème en ce moment de munitions. Ça, c'est récurrent. Les Russes, eux, ont aussi des problèmes. On sait que les soldats de Wagner se plaignent souvent auprès de... Vladimir Poutine, une mise de la défense qui manque de munitions à Bakhmout. Mais c'est pareil pour les Ukrainiens. Ils sont obligés de restreindre et ça pose de graves problèmes pour l'infanterie. Souvent, qui peuvent avoir besoin d'un appui d'artillerie, ils ne l'ont pas. Et je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit hier. Je suis désolé pour le CRTC, mais il m'a dit ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est des armes modernes et surtout des putains de stocks d'obus. Donc, c'était exactement ses propos. Et pour l'instant, leur préoccupation, en attendant, c'est malgré tout de tenir les positions et d'empêcher les Russes d'avancer davantage et de finir d'encercler Bakhmout.
Mais ce que tu décris, Fabrice, c'est vraiment une guerre d'usure, là, avec des combattants ukrainiens déterminés et des Russes qui tiennent le coup, qui sont un peu plus loin. Il y a pas, ce que tu décris, là, il n'y a pas de contact direct entre les deux. Ils sont à distance tout le temps.
Ben, ça dépend. L'artillerie, effectivement, ils essayent de préserver leurs tanks et leurs mortiers. Donc, ils essayent de tirer depuis des positions cachées, mais il y a parfois des batailles de tanks. Mais dans Bakhmout, effectivement, c'est quasiment du corps à corps, rue à rue. Hein. Le soldat blessé dont je vous ai parlé l'autre jour, il me disait, on est assez proche des soldats de Wagner pour voir la couleur de leurs yeux. Donc, lui-même avait été blessé par une grenade qui avait été jetée par-dessus le muret de la maison qui était à côté de leur position. Mais à l'extérieur, effectivement, c'est plus une bataille conventionnelle avec des tranchées très profondes, de l'artillerie. Puis aussi, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les Russes utilisent beaucoup moins leurs avions de chasse qu'avant. Avant l'été, il y avait beaucoup de sorties d'avions, mais beaucoup de ces avions ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne, qui maintenant a reçu des systèmes de défense très modernes de la part de l'Occident, entre autres des NASAM norvégiens. Mais encore hier, à Bakhmout, il y a un avion de chasse russe qui a été abattu pas loin de la ville, ça a été confirmé. Mais sinon, effectivement, c'est une guerre d'usure. Et pour l'instant, la priorité, c'est de tenir les positions parce qu'on sait que dans quelques semaines, les Ukrainiens vont lancer une grande offensive. Mais ils attendent que les soldats qui sont en cours de formation, entre autres par les Canadiens, les Américains, etc., soient sur le terrain. Et surtout, avec les fameux chars Léopard que tout le monde attend avec impatience, mais aussi d'autres modèles comme les Bradley américains, les AMX européens, etc., quoi.
Merci beaucoup, Fabrice. Et évidemment, toujours la même remarque, sois très, très prudent. Merci. Fabrice de Pierrebeau qui nous parlait en direct de l'Ukraine.
C'est 23.